une histoire particulière. En 1931, Le Corbusier foule pour la première fois le sol d'Alger. Il découvre avec émerveillement la Casbah et, après plusieurs voyages, en livre dans Poésie sur Alger une description lumineuse sous forme de déambulation, attentif aux pierres, aux hommes, à la nature. Il s'inquiète aussi des ravages de la colonisation européenne qui lui semble ne respecter en rien un site exceptionnel et une ville appelée à devenir la capitale de l'Afrique. Aujourd'hui, Séhem Boutata et Christine Robert vous emmènent à Alger, là où le temps d'une décennie, Alger la Blanche est devenue Alger la Rouge. Alger Rouge et Panthère Noire.
C'était un événement unique au monde, absolument extraordinaire. Aussi impressionnant qu'un événement comme Woodstock. Il y avait même des Algériennes voilées qui venaient avec des enfants qui restaient jusqu'à 2-3 heures du matin dans les rues d'Alger à écouter les concerts, à regarder les danseurs, les troupes.
C'était un mouvement magnifique. Ah oui, je me souviens très bien, c'était une immense joie. Alors, en plus, les gens se sont subitement sentis africains.
Il y avait 31 pays indépendants africains, plus 6 mouvements de libération qui ont envoyé des délégations. Mais quand je dis des délégations, ça veut dire des artistes, des musiciens, des danseurs, des troupes, des hommes de culture, etc. C'était assez exceptionnel. C'était une ville ouverte à la culture 24 heures sur 24.
Première partie, Alger et les révolutionnaires, une décennie enchantée. Au début des années 60, dans l'euphorie de son indépendance retrouvée, l'Algérie, Al-Jazair comme elle se dit en arabe, s'érige en terre d'accueil des mouvements anticoloniaux et révolutionnaires du monde entier. Pendant une dizaine d'années, les gouvernements successifs de Ben Bella et de Boumédienne apportent leurs soutiens actifs à tous les militants du tiers-monde en lutte contre l'oppression coloniale ou raciale. C'est dans ce contexte qu'est lancé en 1969 le premier festival culturel panafricain. Beaucoup plus qu'un simple événement culturel, ce festival est une tribune politique majeure pour les pays émergents dont l'Algérie se veut le fer de lance. Ce rendez-vous festif et inédit rassemble une Afrique fraternelle, bouillonnante de créativité et d'espoir, où l'esprit révolutionnaire habite plus que jamais les rues de la ville blanche. Des artistes de toutes les disciplines sont rejoints par les représentants des mouvements de libération de l'Angola, de l'Afrique du Sud, du Vietnam et, plus étonnant encore, par les Black Panthers venus d'Amérique qui saisissent cette occasion pour fonder leur bureau international à Alger. L'Algérie veut jouer en Afrique un rôle analogue à celui de Cuba en Amérique latine et durant près d'une décennie, la capitale algérienne devient alors la Mecque des révolutionnaires.
We kissed the ground.
Archichep.
C'est-à-dire, c'était la première fois que nous étions en Afrique. Pour nous, c'était vraiment impressionnant. Le festival était un vrai festival pan-africain, pas maghrébien, dans ce sens-là. Et tout le monde qui était là, c'était une réunion des enfants d'Afrique. Nina Simone était là, Kwame Ture, Stokely Carmichael, Miriam Makeba, et des gens de partout en Afrique, même quelques Indiennes étaient là, je me souviens.
C'est une expérience, c'est une improvisation,
n'est-ce pas?
C'est le geste. Ah oui, le micro, les micros.
Il y avait Archie Shepp qui était là, grand musicien de jazz américain.
William Klein.
Lui, il a fait un spectacle à la fin du film avec des musiciens.
Touareg.
Touareg. Ça vous a plu?
Mais, de première chose, nous sommes africains. Qui est contact? Qui est contact? Jazz is a black power. Jazz is an African power. Jazz is an African music. Jazz is an African music.
Archie Shepp a joué beaucoup avec les Touaregs, c'était assez étonnant. C'était un grand moment de festival.
Tout le peuple de l'Afrique, ils sont très contents pour la première fois. En espérant que ça va, on doit revoir plus que ça pour la première fois. Moi personnellement, je suis très content et ma femme est aussi.
C'était extraordinaire. À tous les carrefours, il y avait une sorte de ring de boxe.
Hélène Mortefi.
La ville s'était réveillée à un point qu'on n'y peut pas imaginer. Jusque 3 et 4 heures du matin, c'était incroyable.
Et les femmes algériennes dans le public?
Il y en avait beaucoup. Énormément, énormément. Surtout... pas loin de la Casbah, dans toute cette région de la place des Martyrs, etc., il y avait des milliers, vraiment des milliers de femmes. Et elles étaient heureuses. Tout le théâtre était plein. Il y avait des petits films par-ci, il y avait par-là, il y avait des séquences théâtrales, il y avait des musiciens, oh oui, absolument partout dans la ville, et il y avait pour tout le monde. Il y avait même des femmes au sein nu, oui, à Alger ça faisait quand même choc.
Le premier jour que j'étais là, j'étais dans la cave d'un lycée et il y avait des batteurs de je ne sais plus quel pays, je crois dans le Kenya. L'ambiance, le bruit, les percussions, pour moi c'était tellement excitant, je me disais, mon Dieu, quelle merveille. Et je pourrais faire un film formidable.
Oh!
C'est fou, l'Algérie est un vrai mystère.
C'était une grande ville moderne. J'avais été dans les capitales africaines avant ça. Et c'était les petites villes, à peine des villages élargis. Mais Alger, c'était autre chose. C'était une ville en deux parties. Il y avait le Casbah, dans lequel habitaient que des Algériens. Et il y avait la ville européenne, il y avait des routes modernes, il y avait un chemin de fer, il y avait une radio-télévision, il y avait des théâtres, etc. Moi, je continuais à traduire et à interpréter. J'ai aidé beaucoup avec les Américains. C'était énorme, 60 000 participants. Il fallait les loger, il fallait les nourrir, il fallait les réceptionner.
Et on imagine que cette grosse organisation a dû coûter très cher aussi.
L'Algérie a tout payé. C'était au nom de l'OUA, mais c'est l'Algérie qui a tout payé. Je pense qu'il n'y avait que l'Algérie qui aurait pu organiser, imaginer, créer un tel événement. Il n'y avait pas d'autres pays africains qui en étaient capables, qui avaient les moyens, qui avaient une ville qui se prêtait.
Et Boumediene, à votre avis, que voulait faire Boumediene avec ce festival?
Il a participé comme un chef d'État. Je me rappelle très bien, quand je le vois encore, il est venu voir et écouter Nina Simone chanter. Il était programmé pour 4 soirées. La première était trop saoule pour assister. Mais les 3 autres, elle a assisté. Boumediene a même assisté à sa 4e soirée, où elle a chanté Elle ne me quitte pas. Elle faisait très bien.
This is a very rare evening.
C'était une femme très engagée pour la justice pour les Noirs américains, très engagée pour la justice à travers le monde, avec une voix sensationnelle et beaucoup de prestance. Une grande dame. Because I see the face of things to come. Oh, the Constitution, where my friend, it's gonna have to bend. Elle était vraiment avec Archie Shepard, le deux stars de la panache. Miriam Makeba était là. Pendant le festival, elle venait d'épouser Stokely Carmichael, ce qui a fait qu'elle et moi, on est devenus assez amis. On a aidé Nina Simone à se rétablir et se mettre sur scène.
Makeba, c'était une merveille. C'était une femme extraordinaire. C'était la mère de la culture africaine. J'aimais beaucoup. Parce que c'était une femme qui représentait beaucoup, qui avait un talent merveilleux, qui a choisi un répertoire de musique émouvante. Et Boumediene l'a fait algérienne pendant le festival. Et moi, j'ai filmé la cérémonie où il lui a donné la nationalité algérienne.
Miriam Makeba était déjà connue à l'étranger. Myriam était une femme africaine. Elle le disait à qui voulait l'entendre. Je suis africaine, je connais l'Afrique, je connais ses défauts et ses qualités, et je la représente.
Elle était donc mariée à Stokely Carmichael, qui faisait partie des Black Panthers, mais il y avait eu scission.
Oui, avant que je n'arrive en Algérie, Stokely avait démissionné et dénoncé plus ou moins les Panthères noirs pour travailler avec les Blancs. Tandis que les Panthères noirs se voyaient à la tête de la révolution américaine, pas uniquement la révolution des Noirs américains, mais des révolutions américaines. Ils travaillaient très bien avec les Blancs, avec toute la population. Ils se voyaient à l'avant-garde. Stokely n'était pas d'accord.
I tell you today, Namibia shall be free. Whatever happens, we will fight to the last minute. Our country, our people will be liberated. We will liberate our soil by our own hands. Namibia shall be free.
Down with colonialism and down with imperialism.
Colonial.
Colonialism.
Colonial.
Colonialism.
Colonialism. We shall fight until we win.
Colonialism. We shall fight until we win.
Pour moi, l'unification des peuples de couleur et des gens d'Afrique et des enfants d'Afrique. C'était important. Le festival était l'unité d'Afrique plutôt qu'une partie d'Afrique, on peut dire le Maghreb, Morocco, nord d'Afrique. C'était pas du tout ça. C'était en fait tous les gens qui font la lutte, qui cherchent libération. C'était important de ce point de vue.
C'était un message fort.
Oui, un message inclusif qui inclut tout qui cherche la libération.
C'est vrai qu'il y avait une foultitude. Tous les mouvements de libération antidictatoriaux avaient pignon sur rue en Algérie.
Ali Habib.
Le continent africain n'était pas encore totalement décolonisé. Il y avait surtout la lutte de l'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait les mouvements asiatiques. Tous ceux qui demandaient asile en Algérie pour des idées idéologiques ou de révolution nationale, non, mais de libération antidictatoriale, pouvaient venir en Algérie. C'est comme ça qu'on a pu dire que Alger était la capitale de la révolution, mais ça à travers aussi le mouvement des non-alignés. Il y avait Cuba, qui est un allié qu'on a soutenu beaucoup, qui est un allié très précieux de l'Algérie, surtout au niveau de la médecine, hein, parce que les médecins, il n'y avait plus beaucoup en Algérie, vous voyez.
Boumediene était donc le chef du gouvernement de l'Algérie. Est-ce qu'il était également secrétaire général du mouvement des non-alignés?
Oui, c'est pas lui qui était secrétaire général, c'est l'Algérie qui était... Attention, hein. C'est l'Algérie, et c'était pour ça qu'il y a eu tout cet élan révolutionnaire qui a masqué un petit peu l'autoritarisme de l'État sur la population. Parce que à l'époque, les non-alignés, c'était vraiment, ça rassemblait à une multitude de pays et un espoir pour les peuples de ces pays contre, disons, la mainmise ou la pression de l'Occident, qui était impérialiste, colonialiste ou ex-impérialiste ou ex-colonialiste.
C'est difficile d'imaginer aujourd'hui, mais déjà pendant la guerre, ils avaient recueilli dans le maquis algérien des mouvements de libération. Ils ont aidé à former des soldats. Et après l'indépendance, presque toutes ces organisations qui étaient encore en lutte pour leur indépendance avaient un bureau à Alger. Même des organisations dans les pays comme le Portugal et l'Espagne, qui étaient des dictateurs à l'époque, Franco et Salazar, avaient des bureaux à Alger. Les Français de Canada avaient un bureau à Alger. C'est difficile d'imaginer aujourd'hui, mais tout le monde était là et ils coopéraient, ils étaient solidaires, les Algériens les aidaient. C'était à peine croyable.
D'ailleurs, le Vietnam avait un bureau aussi.
Le Vietnam avait un bureau, l'Algérie les aidait, envoyait des armes. Vous savez, le Vietnam, pour le peuple algérien à l'époque, c'était un peu comme la Palestine est pour l'ensemble de la communauté arabe ou des pays arabes ou des pays qui soutiennent la lutte du peuple palestinien. C'est quelque chose qui est très ancré dans le cœur des Algériens. C'était vraiment les Vietnamiens étaient en plus un tout petit pays qui luttait contre la plus grande puissance militaire du monde et qui a gagné. C'est quelque chose d'absolu. Moi, je me rappelle quand Ho Chi Minh est mort, c'est moi qui, je travaillais à la chaîne 3, je travaillais plus à El Mujahed, et c'est moi qui ai annoncé ça, et j'ai fondu en, ça me fait pleurer. Pardon. J'ai fondu en larmes.
Il y avait aussi, la présence de Cubains, de Brésiliens, de Palestiniens, et plus original encore, il y avait la présence des Black Panthers. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment les Black Panthers sont arrivés au milieu du festival?
Au mois de juin, Eldridge Cleaver était arrivé de Cuba. Eldridge Cleaver était ce que les Black Panthers appelaient le ministre de la formation. C'était un militant qui avait écrit un livre qui a fait choc aux États-Unis, qui a eu énormément de succès aux États-Unis. Ça s'appelait Soul on Ice. Et il était arrivé à Alger, personne ne savait qu'il était là. Et par hasard, il a réussi à connaître un militant qui était le représentant de ZAPU, Zimbabwe African People's Union, de Zimbabwe. C'était Rhodésie à l'époque, dirigé par une équipe de racistes. Ils avaient un bureau à Alger et Aldridge a réussi à connaître Charles Chikarema de ZAPU. Et Charles m'a téléphoné pour me demander d'aller voir Aldridge et voir si je ne pouvais pas l'aider à s'établir à Alger. Ce que j'ai fait.
This morning, I received a phone call from our chairman, Bobby Seale.
Ce matin, j'ai reçu un coup de téléphone de notre président, Bobby Seale.
Conférence d'Eldridge Cleaver à Alger.
Il téléphonait de Oakland, en Californie, aux États-Unis.
And he said that the district attorney of New York State.
Il a dit que le chef de la police de l'État de New York
had stated on television and over the radio.
A déclaré sur les antennes de la radio et à la télévision
that within 48 hours he was going to have every member of the Black Panther Party in the state of New York behind bars.
Et il a dit sur les antennes de la radio et de la télévision que dans les 48 heures tous les militants du parti de la Panthère Noire dans l'état de New York seraient mis en prison.
Now this is I think this telephone call serves to clarify the difference between what is happening here in Algeria, where we are participating in this cultural festival, and what's happening in Babylon.
Je pense que ce coup de téléphone démontre la différence qui existe entre la situation ici en Algérie, où nous participons au festival panafricain, la différence qui existe entre cette situation-là et la situation là-bas dans Babylone.
We came over here to do what we can to communicate to you what's happening in our struggle in the United States.
Nous sommes venus ici pour faire tout ce qui est à notre pouvoir afin d'essayer de vous expliquer, de vous apprendre ce qui se passe aux États-Unis.
And to learn what is happening over here and what have been the successes and what have been the failures and what are the dangers that we must be aware of.
Et nous sommes venus aussi pour essayer d'apprendre quel est votre combat, quels ont été vos problèmes, quels sont vos problèmes, quels sont les dangers qu'il nous faudra éviter.
Ils étaient nombreux à venir se réfugier du coup à Alger alors.
Oh oui, c'était une trentaine. Tous n'étaient pas recherchés forcément. Non, il y avait des gens qui n'étaient pas recherchés, qui étaient venus parce que c'était le choix. Ils voulaient être libres, ils voulaient pouvoir faire de la politique, ils voulaient connaître le monde, ils voulaient faire passer un message de justice, etc. C'était par idéalisme.
Mais que faisaient les Black Panthers au quotidien à Alger?
Ben écoutez, ils se réunissaient, ils avaient des réunions avec le pôle du FLN qui s'occupait des mouvements de libération, et surtout Irish Cleaver a sillonné l'Afrique avec un passeport algérien. Il était en Corée, il allait un peu partout, donc ils essayaient d'organiser, surtout au niveau des Africains, enfin des Africains, l'Algérie est africaine, mais subsahariens, où ils essayaient de rassembler un peu l'effort pour aider en même temps la lutte des Black Panthers avec les mouvements de libération, le Frelimo, le MPLA, je sais pas s'il est le Mozambique, l'Angola, tous ces mouvements de révolutionnaires qui voulaient l'indépendance.
Je veux que vous sachiez que nous sommes très heureux de voir les impérialistes et les colonialistes expulsés de l'Afrique.
To help destroy Babylon, the system of Babylon, so that the whole world would be liberated, because we recognize that since the United States of America is the backbone of oppression in the world, that the blows that we strike against the empire there will also aid the liberation struggles in Africa, Asia, and Latin America as we aid ourselves in Babylon.
Donc notre but, c'est la destruction du système capitaliste chez nous, parce que nous sommes conscients que le système américain représente la colonne vertébrale de l'impérialisme américain qui s'étend partout dans le monde, et que si nous le détruisons chez nous, nous le détruirons également partout en Amérique latine, en Afrique et en Asie.
Alger et les révolutionnaires, une décennie enchantée. Avec Hélène Mortefi, Ali Habib, Archie Shepp et William Klein. Extrait du film du Festival panafricain d'Alger de William Klein. Coordination, Christine Bernard. Attachée de production, Sylvia Favre. Prise de son, Marc Garvenès. Mixage, Valérie Lavalard. Un documentaire de Séam Boutata, réalisé par Christine Robert. Suite du documentaire Alger rouge et panthère noire, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant, 14h, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.